Chapitre 13. La consécration des premiers-nés. Les premiers versets de ce chapitre nous apprennent que le dévouement et la sainteté personnelle sont des fruits que l'amour divin produit en ceux qui en sont les heureux objets. La consécration des premiers-nés et la fête des pains sans levain sont présentées ici en rapport immédiat avec la délivrance du peuple hors du pays d'Égypte. Sanctifie-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes, il est à moi. Et Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte, et on ne mangera point de pain levé. Et encore, pendant 7 jours tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour il y aura une fête à l'Éternel. » On mangera pendant les 7 jours des pains sans levain, et il ne se verra point chez toi de pain levé, et il ne se verra point de levain chez toi dans tous tes confins. Versets 2, 3, 6 et 7. La raison pour laquelle ces deux prescriptions devaient être observées est exposée dans les versets suivants. Et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Et encore, et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Qu'est-ce que ceci ?» Alors tu lui diras « À main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Et il arriva quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Versets 8, 14 et 15. Plus nous avancerons par la puissance de l'Esprit de Dieu, dans la connaissance de la rédemption qui est en Jésus-Christ, plus notre vie de séparation sera prononcée et notre dévouement complet. Tout effort pour produire l'une ou l'autre de ces choses avant que la rédemption soit connue est entièrement vain. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire à cause de ce que l'Éternel a fait, et non dans le but d'obtenir de lui quelque chose. Les efforts que nous faisons pour obtenir la vie et la paix prouvent que nous sommes encore étrangers à la puissance du sang, tandis que les fruits purs d'une rédemption connue sont à la louange de celui qui nous a rachetés. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Dieu nous a déjà préparé un chemin de bonnes œuvres afin que nous y marchions, et il nous prépare pour y marcher. C'est parce que nous sommes sauvés que nous pouvons marcher dans ce chemin-là. S'il en était autrement, nous pourrions nous vanter, mais considérant que nous sommes nous-mêmes l'ouvrage de Dieu, comme l'est aussi le chemin dans lequel nous marchons, nous n'avons aucune raison de nous vanter. Romains 3, verset 27, 1 Corinthiens 1, versets 27 à 31. Le vrai christianisme n'est que la manifestation de la vie de Christ implantée en nous par l'opération du Saint-Esprit, selon les conseils éternels de la grâce souveraine de Dieu. Et toutes les œuvres qui ont précédé chez nous l'implantation de cette vie ne sont que des œuvres mortes dont notre conscience a besoin d'être purifiée tout aussi bien que des mauvaises œuvres. Hébreux 9, verset 14. Toute œuvre faite dans le but d'obtenir la vie est une œuvre morte, car elle est faite sans la vie de Christ, l'unique source de laquelle les bonnes œuvres puissent découler. Je ne parle pas d'ici de mauvaises œuvres, personne ne songerait à obtenir la vie par de telles œuvres. Mais vous verrez qu'on a constamment recours aux œuvres mortes pour alléger la conscience oppressée sous le sentiment des mauvaises œuvres. Tandis que la révélation divine nous apprend que la conscience a besoin d'être purifiée des unes aussi bien que des autres. Nous lisons encore, pour ce qui est de la justice, que toutes nos justices sont comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Il n'est pas dit que toutes nos méchancetés, seulement, sont comme un vêtement souillé. Qui le contesterait? Mais ce que nous avons à apprendre, c'est que les meilleurs fruits que nous puissions produire, sous la forme de la piété et de la justice, sont présentés dans l'Écriture comme des œuvres mortes et un vêtement souillé. Ce n'est que comme vrai et actuel possesseur de la vie éternelle et de la justice divine que nous pouvons marcher dans le chemin des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Ceux-là seuls que l'Éternel a délivrés peuvent y marcher. Ésaïe 51, verset 11. C'était comme un peuple racheté qu'Israël gardait la fête des pains sans levain et dédiait ses premiers-nés à l'Éternel. Nous avons déjà considéré la première de ces ordonnances. La seconde n'est pas moins riche en enseignements. L'ange destructeur passa sur le pays d'Égypte pour détruire tous les premiers-nés. Mais les premiers-nés d'Israël échappèrent grâce à la mort d'un substitut donné de Dieu. En conséquence, ces derniers apparaissent ici comme un peuple vivant consacré à Dieu. Sauvés par le sang de l'agneau, ils ont le privilège de consacrer leur vie à celui qui l'a racheté à prix. 1 Corinthiens 6, verset 20. Ce n'était que comme racheté qu'ils possédaient la vie. La grâce de Dieu seul avait fait pour eux une différence. Exode 11, verset 5 à 7. Et leur avait accordé la vie, de sorte qu'ils n'avaient assurément aucune raison de se glorifier. En effet, nous apprenons ici qu'ils étaient mis au même rang que tous les animaux impurs. Tout premier fruit des ânes, tu le rachèteras avec un agneau, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Et tout premier-né des hommes, parmi tes fils, tu le rachèteras. Verset 13. Il y avait deux classes d'animaux, celle des animaux purs et celle des animaux impurs. Et l'homme est ici placé avec la dernière. L'agneau devait répondre pour l'animal impur, et si on ne rachetait pas l'âne, on devait lui briser la nuque, en sorte que l'homme non racheté était mis au même rang qu'un animal impur et sans valeur. Quel tableau humiliant de l'homme dans son état naturel! Oh, si nos pauvres cœurs orgueilleux pouvaient le comprendre davantage! Alors nous nous réjouirions davantage de l'heureux privilège d'être lavés de notre iniquité dans le sang de l'agneau et d'avoir pour toujours laissé notre abjection personnelle dans la tombe où notre Sauveur fut couché. Christ était l'agneau pur, sans tache. Nous étions souillés, mais, que son saint nom soit jamais béni, il prit notre place et sur la croix il fut fait péché. Il fut traité comme tel. Il endura sur la croix ce que nous aurions enduré pendant toute l'éternité. Il souffrit, là et alors, tout ce qui nous revenait, afin que nous puissions jouir éternellement de ce que lui a mérité. Il reçut notre salaire, afin que nous recevions le sien. Celui qui était pur prit, pour un moment, la place des impurs, le juste pour les injustes, afin que les impurs puissent prendre pour toujours la place de celui qui était pur. Ainsi, tandis que, dans notre état naturel, nous sommes représentés par l'humiliante image d'un âne qui doit avoir la nuque brisée, selon la grâce, nous sommes représentés par un Christ ressuscité et glorifié dans le ciel. Merveilleux contraste. Dieu met la gloire de l'homme dans la poussière et magnifie les richesses de son amour rédempteur. Avec quelle puissance nous sont ici rappelées les paroles de l'apôtre. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ayant été ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car, en ce qu'il est mort, il est mort une fois pour toutes au péché. Mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même pour mort au péché, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché, donc, ne règne point dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez aux convoitises de celui-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, versets 8 à 14. Nous sommes non seulement rachetés de la puissance de la mort, mais encore unis à celui qui nous a rachetés au prix immense de sa propre vie, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, nous consacrions à son service notre vie nouvelle, avec toutes ses facultés, en sorte que son nom soit glorifié en nous. Sortie d'Égypte. Nous trouvons dans les derniers versets de ce chapitre 13 de l'Exode un touchant exemple des compassions de l'Éternel pour la faiblesse de son peuple. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Quand il racheta Israël pour le mettre en relation avec lui-même, l'Éternel, dans sa grâce infinie, se chargea de tous les besoins et de toutes les faiblesses des siens. Peu importait ce qu'ils étaient ou ce dont ils avaient besoin, puisque celui qui s'appelle « Je suis » les accompagnait. Il allait les conduire de l'Égypte en Canaan, et nous le voyons ici occupé à choisir un chemin convenable pour eux. Et il arriva, quand le Pharaon laissa aller le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, qui est pourtant proche. Car Dieu dit, « De peur que le peuple ne se repente lorsqu'ils verront la guerre et qu'ils ne retournent en Égypte. » Et Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert de la mer Rouge. Versets 17 et 18. Le Seigneur, dans sa grâce et sa condescendance, arrange les choses de telle sorte que les siens ne rencontrent pas, au début de leur carrière, de trop pénibles épreuves. Elles pourraient avoir pour effet de les décourager dans leur cœur et de les faire reculer. Le chemin du désert était une route bien plus longue que celle du pays des Philistins, mais Dieu avait diverses leçons importantes à enseigner à son peuple, et elles ne pouvaient s'apprendre que dans le désert. Ce fait leur fut rappelé plus tard. « Et tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, si tu garderais ses commandements ou non. » Deutéronome 8, verset 2. Ces leçons n'auraient jamais pu s'apprendre par le chemin du pays des Philistins. Dans ce chemin-là, les Israélites auraient pu apprendre ce qu'était la guerre, dès le commencement de leur carrière. Mais, dans le chemin du désert, ils apprirent ce qu'était la chair, dans toute sa perversité, son incrédulité et sa rébellion. Cependant, celui qui s'appelle « Je suis » était là, dans toute sa patiente grâce, sa parfaite sagesse et sa puissance infinie. Lui seul pouvait répondre aux besoins de la situation. Il n'y a que lui qui puisse supporter la vue des profondeurs du cœur humain mis à découvert devant lui. La révélation de ce qui est dans mon cœur, faite ailleurs que dans la présence de la grâce infinie, me plongerait dans le plus complet désespoir. Et ils partirent de Sukkot et campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Et l'Éternel allait devant eux de jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retira point le jour ni la colonne de feu la nuit de devant le peuple. Versets 20 à 22. Non seulement l'Éternel choisit un chemin pour son peuple, mais encore il descendit pour y marcher avec lui et pour se faire connaître à lui selon ses besoins. Non seulement il le conduisit sain et sauf en dehors des limites de l'Égypte, mais encore il descendit pour l'accompagner au travers de toutes les vicissitudes de son voyage par le désert. C'était là la grâce divine. Les Israélites ne furent pas simplement délivrés de la fournaise de l'Égypte et laissés libres ensuite pour se tirer d'affaire le mieux qu'ils pourraient dans leur voyage vers Canaan. Dieu savait qu'ils avaient devant eux une route pénible et dangereuse, des serpents et des scorpions, des pièges et des difficultés, la sécheresse et la stérilité du désert. Et, béni soit son nom, il ne voulut pas les laisser aller tout seuls. Il voulut être leur compagnon et partager leurs peines et leurs dangers. Bien plus, il allait devant eux. Il était un guide, une gloire, une défense pour les délivrer de toute crainte. Pourquoi l'ont-ils tant affligé par la dureté de leur cœur? S'ils avaient marché humblement avec lui, comptant et se confiant en lui, leur marche aurait été une marche victorieuse, du commencement à la fin. L'Éternel étant à leur tête, aucune puissance n'aurait pu interrompre les progrès de leur marche, de l'Égypte en Canaan. Il les aurait introduits et les aurait plantés sur la montagne de son héritage, selon sa promesse et par la puissance de sa droite, et il n'aurait pas permis qu'un seul Cananéen demeure de reste dans le pays pour être une épine à Israël. Ainsi en sera-t-il bientôt, quand l'Éternel mettra sa main une seconde fois pour délivrer son peuple de la puissance de tous ses oppresseurs. Veuille le Seigneur hâter ce temps.